Compétence. Ecclésia Magazine.
Ecclésia Magazine.
Maxime Dahl.
Alors aujourd'hui dans Ecclésia Magazine, nous continuons notre série sur les pèlerinages. Il y en a beaucoup en mai, en juin et même en juillet. Cet été, début juillet, 200 personnes, dont deux tiers du quart monde, iront à Rome pour voir le pape et lui exprimer l'importance de la foi des plus pauvres. À l'aube du centenaire de la naissance de Joseph Brzezinski, fondateur des quart monde, ils ont vraiment envie de partager ce trésor si particulier qui les lie. Nous en parlons aujourd'hui avec Jean-Claude Caillot, membre fondateur du groupe Pierre d'Angle. Jean-Claude Caillot, bonjour.
Bonjour.
Alors peut-être pour commencer, présenter Pierre d'Angle, dont vous êtes le membre fondateur.
Oui, ben, Pierre d'Angle, c'est assez simple, hein, ce sont des groupes répartis en France, dans 17 villes de France, des groupes de personnes du quart monde, donc des personnes vivant la grande précarité, la grande pauvreté, des personnes seules ou bien des personnes vivant en famille, et qui se réunissent pour réfléchir autour de l'Évangile et prier à partir de l'Évangile, à partir de la personne de Jésus, rencontrée dans leur vie difficile. Et puis, autre spécificité, nous essayons de vivre la spiritualité du Père Joseph Brzezinski, on aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure, la spiritualité du Père Joseph Brzezinski. Nous nous rattachons et nous nous considérons comme héritiers de la pensée théologique, spirituelle du Père Joseph Brzezinski. Mais là, tout de suite, je ne parle pas seulement en tant que représentant la fraternité de la Pierre d'Angle, mais aussi le SAPEL et la Bonne Nouvelle Quart Monde de Toulouse, parce que ce sont ces trois associations qui se sont réunies
Pour faire le pèlerinage.
Mise ensemble pour faire ce pèlerinage. Le SAPEL est une communauté autour de Lyon, mais aussi dans d'autres villes de France, Reims, la Grande-Synthe, et aussi en Belgique, une communauté de chrétiens du quart monde, avec des personnes qui les rejoignent, et qui essayent, comme la Pierre d'Angle, de vivre selon l'Évangile et selon la spiritualité du Père Joseph. Et de même pour la Bonne Nouvelle Quart Monde de Toulouse, qui sont des gens du Quart Monde qui se réunissent autour d'une petite communauté de sœurs, les Sœurs de la Bonne Nouvelle, qui ont été créées par Suzanne Struss, qui est morte il y a environ un an, et qui, de même que le SAPEL et la Pierre d'Angle, essayent de vivre autour de avec la personne de Jésus et à partir de la spiritualité du Père Joseph. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que ces trois associations vivent, essaient de vivre et de rencontrer des personnes exclues par notre société et que personne ne connaît, ou en tout cas, si des gens les connaissent, mais personne n'imagine que ces hommes, ces femmes ou ces enfants aient quelque chose à dire à la société et encore moins à l'Église.
Donc être proche des pauvres. Pierre d'Angle, pour prendre cet exemple,
oui.
Vous en êtes le membre fondateur. Une association qui compte combien de membres actuellement ?
En gros, on est entre 250 et 300. Difficile de dire le nombre parce que il y a des gens qui sont inscrits. Et puis, entre être inscrit et puis venir aux réunions, on peut dire que 250 participent régulièrement et qu'on est environ 300 inscrits. Ça peut être un peu moins nombreux, une centaine et 50-60 pour la Bonne Nouvelle Quart Monde et à Toulouse. Et si nous nous sommes réunis ensemble, c'est que vraiment on veut liguer nos forces, disons les forces du quart monde. C'est-à-dire que les gens,
fédérer des groupes qui partagent une même spiritualité.
Une même spiritualité et puis qui vivent les mêmes réalités de misère et de grande pauvreté.
Alors j'aimerais justement revivre sur ces membres de ces trois associations qui y vivent, comme vous le dites, dans la précarité, qui vivent auprès des pauvres. Comment résumer, en quoi consiste précisément une vie ou la vie, disons-nous, de Jean-Claude Caillot? Vous êtes marié, vous avez des enfants.
Cinq enfants,
donc c'est un engagement tout de même fort, puissant, oui. qui regroupe toute la famille.
Oui.
Donc comment ça se déroule?
Ce qu'il y a, c'est que, moi je suis membre du mouvement ATD Quart Monde. Je suis rentré dans le mouvement ATD Quart Monde il y a plus de 30 ans, avec ma femme, mes enfants, ma femme est elle aussi du mouvement ATD Quart Monde. Et puis, il y a une vingtaine d'années, j'ai souhaité créer quelque chose dans la spiritualité chrétienne, c'est-à-dire sensible au fait que les gens ont soif de la parole de Dieu, ils ont soif d'être reconnus par l'Église, ils ont une foi, et bien souvent les gens disent « mais nous on n'a rien, mais il n'y a plus que Dieu ». Qui est ce Dieu? Allez savoir. Eh bien justement, allons savoir, allons-y. Allons-y pour écouter et pour apprendre. Il n'y a pas que l'Église, les théologiens, les prêtres, même le pape, qui ont à dire ce qu'est Jésus-Christ, ou qui est le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu et Père de Jésus-Christ, hein, comme dit Paul. Mais les très pauvres ont une parole. Oui, c'est la parole de Matthieu 11, 25. « Je te bénis, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. » Alors, c'est vrai ou c'est faux, mais si c'est vrai, il y a une révélation qui ne peut nous être donnée, manifestée, que par les plus faibles, les plus petits, les plus rejetés. Alors, quelle est ma vie, vous disiez, mais c'est une vie qui essaie simplement d'être proche des personnes. Et quand je dis « quelle est ma vie », c'est la vie de ma femme, c'est la vie de toutes les personnes qui rejoignent les personnes les plus pauvres dans la Pierre d'Angle, mais aussi le SAPEL, la Bonne Nouvelle Carmonde. De ce point de vue-là, nous avons une même pédagogie que nous avons appris du Père Joseph.
Et après, vous vivez en communauté ou
Non. Alors, le SAPEL, la communauté du SAPEL, comme son nom l'indique, est une communauté, une dimension plus communautaire, avec des gens qui ne vivent pas nécessairement ensemble, au sens, on ne revient pas aux années 70, mais vivent une vie communautaire au sens où ils ont un engagement commun les uns par rapport aux autres. La Pierre d'Angle n'avons pas d'engagement les uns par rapport aux autres, les différents animateurs des groupes, simplement nous suivons une charte commune. Ouais. Cette charte, c'est nous sommes autour de la personne de Jésus et nous suivons la spiritualité du Père Joseph qui vise à être proche des pauvres et d'être dans une dynamique d'apprendre de ceux qui apparemment ne savent rien.
Alors on va revenir sur cette pédagogie, sur cette spiritualité du Père Brzezinski dont nous fêtons cette année le centenaire de sa naissance. Vous disiez il y a quelques années dans la croix, je crois, il nous a semblé que nous n'avions pas seulement à vivre une vie sobre, frugale, vous parlez de vous et de votre famille, ce qui est une exigence évangélique pour tous ceux qui suivent le Christ, mais que nous avions aussi à être avec les plus pauvres. Donc là on est en plein dedans, quoi. C'est vivre au milieu des plus pauvres.
Oui, vous voyez, les choses sont simples finalement. Quand nous nous sommes mariés, nous avons voulu vivre une vie simple, une vie modeste. Autrement dit, ne pas gagner des cent et des mille, et conscient que l'argent était très loin de faire le bonheur. Mais au sens propre du terme, autrement dit qu'il ne permettait pas de suivre la voie d'une humanité saine. Et donc, au bout d'un moment, on s'est aperçu que c'est bien, mais vivre de manière modeste, ça c'est le luxe des riches. Y a tas de gens en ce monde qui ne peuvent pas se payer le luxe de vivre une vie modeste parce qu'ils ont une vie misérable et qui est à la frange de ce qu'est l'humanité digne. Donc, nous sommes dit, il a fallu, ça ne s'est pas fait en un quart de seconde, hein, nous avons marché lentement, à notre rythme, et on s'est dit, mais il faut aller vers les pauvres. Et on a contacté une association, cette première association était une association qui travaillait en Haïti, et quand ils ont su que nous avions à l'époque deux enfants très jeunes, ils ont dit, non, c'est pas possible. On s'est dit, ben, finalement, il n'y a pas que le tiers-monde, les pauvres, c'est aussi chez nous, dans notre cage d'escalier et dans notre rue. Alors, voilà, c'est comme ça que nous avons frappé à la porte de TD Carmonde et que nous avons rencontré le Père Joseph et que moi-même, j'ai travaillé 4 ans avec lui.
Alors, qu'est-ce qu'on entend d'ailleurs par vivre au milieu des pauvres? Qui sont les pauvres aujourd'hui en France? Comment vous vivez avec eux? Qu'est-ce que ça signifie en concret dans la vie de tous les jours?
Ben, vous savez, je m'excuse à Radio Notre-Dame de citer ce grand philosophe et économiste, mais Karl Marx disait et pointait du doigt et de l'esprit le lumpenprolétariat, c'est-à-dire le prolétariat en haillons, c'est-à-dire ce prolétariat qui est inutile à la révolution. Ouais. Eh bien, on pourrait dire que les plus pauvres en France, les plus pauvres en Europe, les plus pauvres dans le monde, ce sont ceux qui sont considérés comme inutiles à la société dans laquelle ils vivent. Donc il y a des gens en France dont personne ne veut entendre parler, ils ne sont pas intéressants. Mais il y a des gens au Burkina Faso ou en Haïti dont personne ne veut entendre parler malgré la misère qui est collective. Il y a, si vous voulez, c'est l'idée que nous avons tous, que nous voulions ou non, Évidemment, nous ne le disons pas comme je vais le dire maintenant, parce que c'est grossier, mais il y a comme un déchet de l'humanité. Eh bien, les personnes les plus pauvres dans quelques pays que ce soit sont celles qui sont considérées comme n'ayant aucune valeur, n'ayant pas de sens à donner à leur environnement et surtout ne pouvant pas contribuer à l'avenir, ne pouvant pas contribuer à la construction de l'avenir de la société. En France, c'est simple, ce sont tous les gens que vous pouvez rencontrer, pas forcément du tout des gens qui vivent dans la rue, hein, des gens qui vivent encore en famille, qui sont dans un appartement, et qui, parce que le logement est insalubre, il y a un manque de travail, il n'y a pas d'argent, il y a une difficulté de scolarité, il y a difficulté d'accès aux soins, parce que vous allez me dire, oui, mais tout ça, on accède à l'école, on accède au logement et on accède aux soins sans problème en France. Oui, pour vous, pour moi aussi. Mais c'est pas si simple d'accéder aux soins, lorsque, on a la carte de la CMU, mais qu'on a oublié de la faire renouveler, que, oui, puis une fois que vous allez chez le médecin avec la carte CMU, savez-vous que c'est pas si simple de présenter sa carte? C'est pas si simple d'avoir à émarger au Restaurant du Cœur ou à je ne sais quelle association qui distribue des colis alimentaires. On dit oui, mais les gens sont des profiteurs finalement, des profiteurs de la générosité des autres. Eh bien, essayez. Simplement, essayez. Mettez-vous dans la queue de n'importe quelle association bienfaitrice et de distribution alimentaire et vous verrez si c'est si simple.
Alors, dans votre volonté, dans votre désir de vivre au milieu des pauvres, avec les pauvres, et avec également les membres, bien sûr, du SAPEL, de Pierre Dang et de Sœur de la Bonne Nouvelle, ça me fait penser à ce personnage, cet artiste, Vincent Van Gogh, au XIXe siècle, qui, durant sa jeunesse, était hésité à être pasteur évangélique. Et du coup, il a été envoyé dans le Borinage. Et lui a voulu vivre vraiment la vie, la vie des mineurs de là-bas, une vie très misérable, très rude. Et finalement, il s'habillait en souillon. Et puis, l'institution, on va dire, évangélique, l'a renvoyé parce que finalement il est presque allé trop loin, il n'était pas assez propre, pas assez prédicateur, si vous voulez. Quel est votre sentiment, vous, en tant que catholique, sur le fait que à la fois vous avez cette vie au milieu des pauvres? Est-ce que vous avez l'appui, le consentement, on va dire, de toute la hiérarchie là aussi qui comprend ce que vous faites?
Oh, la hiérarchie, je n'en sais rien, ça il faut le leur demander.
Est-ce que vous pensez que l'Église aujourd'hui pousse les gens? Donc les gens, du moins,
le pape François insiste tant, c'est que l'Église ne le fait pas trop. Si le pape François insiste tant pour une Église pauvre, vraiment pauvre, n'essayons pas de dire oui, mais mon Dieu, non, vraiment pauvre, y compris dans l'habitat des curés, des évêques, une Église pauvre. Si le pape François insistant sur une église pauvre pour les pauvres, c'est-à-dire une église pauvre où les pauvres se sentent chez eux, non pas le prince qui donne aux manants, hein, le riche qui donne aux pauvres, celui qui donne à celui qui n'a pas, comme si l'église allait donner aux plus pauvres là qui sont à ses pieds. Non, une église où les pauvres soient chez eux, se sentent chez eux. Or aujourd'hui, les très pauvres, les plus misérables parmi nos concitoyens, ne se sentent pas chez eux dans l'église. Savez-vous que les gens ne vont pas le dimanche dans l'église parce qu'il y a du monde, ils y vont en semaine parce qu'il n'y a pas de monde. J'en dis, nous, on se sent pas chez nous le dimanche. Les gens qui sont là, ils sont pas comme nous. Et c'est non seulement ils sont pas comme nous, pas habillés comme nous, ils parlent pas comme nous, ils ont pas les mêmes gestes que nous. Je parle là de gens qui parlent la même langue que vous et moi.
Oui, bien sûr.
Et qui pourtant... ils ne se sentent pas reçus, se sentent pas accueillis. Alors, vous comme moi, si vous êtes dans la paroisse, vous allez dire, mais nous, on ne ferme pas la porte aux pauvres gens. Au contraire, on ouvre la porte, qu'ils viennent. Oui, mais voilà, ils ne se sentent pas.
Vous, votre sentiment, c'est que c'est à nous de nous remettre en question et peut-être d'adopter un mode de vie plus frugal, plus pauvre aussi, moins ostentatoire.
C'est à nous à changer. Évidemment, c'est à nous à changer. Si vous voulez, c'est nous qui avons
l'essentiel.
Au fond, si on veut qu'il n'y ait plus de misère dans le monde, et je n'invente rien, là, c'est un grand économiste qui dit ça, si nous voulons qu'il n'y ait plus de misère dans le monde, il faut que nous devenions tous pauvres. Mais vous voyez, pauvres en quel sens alors? Pauvres, c'est-à-dire avec une vie frugale. C'est Jean-Baptiste de Foucault qui dit l'abondance frugale. Il ne s'agit pas de revenir aux cavernes, ouais. Il s'agit de vivre frugalement. Pas besoin de faire des excès. Mais moi, je vis frugalement, mais je suis bien. Je veux dire que je vais au cinéma, quelquefois au restaurant, je lis des livres. Je ne suis pas à plaindre.
C'est vrai que le Christ, dans les évangiles, pointe souvent du doigt aussi. Les riches, faites attention. Il montre bien aussi que ce sont les pauvres, matériellement peut-être aussi, qui ont plus de capacité peut-être à ouvrir leur cœur aussi au message christique.
Absolument. Relisez Luxis. Heureux vous les pauvres. Heureux vous les pauvres. Les pauvres qui ben, les manants, les misérables. Malheur à vous les riches. Alors, jamais ne condamne.
Oui. Mais est-ce que ça veut dire par ailleurs que, par exemple, Jean-Claude Caillaux, il ne faut surtout pas gagner d'argent, surtout pas monter une entreprise, et enfin, jusqu'à quel point, on va dire, on peut aller dans cette
interprétation évangélique ? C'est que là, l'exemple est mal choisi, au sens où je suis pas dans la situation où monter une entreprise, puisque précisément, j'ai choisi un chemin où je ne monterai pas d'entreprise, où je ne ferai pas d'argent, puisque je me suis mis dans une association qui est proche des pauvres, et c'était pas du bénévolat, c'était mon métier, entre guillemets, si vous voulez, même si c'est pas un métier, c'est plus un engagement. Mais je pense que, où que ce soit, y compris chez les patrons du CAC 40, il pourrait y avoir une vie modeste. Il n'y a rien de plus simple, la vie modeste, finalement. C'est simplement retirer quelques zéros à son chiffre d'affaires. Enfin, le chiffre d'affaires, non, parce que le chiffre d'affaires, il faut que la société française puisse progresser économiquement, l'Europe, le monde entier, la planète, mais quelques zéros sur sa feuille de paye, là, finalement, il n'y a rien de plus simple que de gommer. C'est plus difficile d'augmenter d'un zéro pour ceux qui n'ont rien, voyez-vous. Imaginez qu'on augmente d'un zéro ceux qui ont le RSA.
On est bien d'accord, c'est vrai que c'est un enjeu aussi pas évident, parce que ça recoupe beaucoup de problèmes, mais peut-être que vous avez raison, il suffit de... Si tout le monde... Mais est-ce que c'est pas un peu utopique aussi, cette...
Mais vous savez, on ne construit rien sans utopie. Ouais. Bien sûr que c'est une utopie, mais c'est quoi une utopie ? Une utopie, c'est un horizon de sens, c'est-à-dire vers quoi nous allons ? Est-ce que nous allons vers une société qui veut soulager la misère, parce que nous ne sommes pas de mauvais gens et nous allons quand même pas les exterminer, mais on soulage, et si on soulage, ben depuis le Moyen-Âge, rien n'a changé. Depuis la manière dont voyait les choses Vincent de Paul, rien n'a changé. C'est tout le prince qui donne au manant, c'est toujours descendant. Tandis que si nous voulons détruire la misère, alors nous emploierons d'autres moyens.
Alors on va peut-être revenir sur ce pèlerinage de début juillet, pèlerinage d'importance qui va se dérouler, je crois, du 4 au 8 juillet prochain. Alors vous allez voir le pape François avec vos amis, avec les membres de ces trois associations. Pourquoi aller voir le pape François, Jean-Claude Caillaux ?
Ben, ce qui est très étonnant, c'est que dès l'instant que le pape a été élu, il n'a pas fallu attendre longtemps. Il y a des choses que les gens sentent, perçoivent d'instinct, indépendamment du discours, que bien souvent ils ne sont pas forcément capables de comprendre tout de suite. Mais tout de suite, les gens que nous connaissons, les très pauvres, ont dit « mais c'est notre pape, on a un pape, c'est le nôtre ». Pourquoi ? Parce que voilà tout d'un coup un qui parlait des pauvres, parlait des pauvres gens, parlait des misérables, non pas comme quelque chose d'extérieur à lui, mais quelqu'un qui les avait rencontrés. Et ça, les gens le sentent tout de suite. Entre un discours de quelqu'un qui parle parce qu'il a appris dans les livres ou il a entendu dire, et quelqu'un qui les a rencontrés. Oui. Lorsque le
ça vous
parle,
l'a senti tout de suite avec
en un quart de seconde. Ouais. Enfin, un quart de seconde, un tout petit peu plus, quelques minutes. Ouais. Mais si vous voulez, il y a une forme, une manière d'être. Une manière d'être qui dit, mais cet homme, il n'est pas comme les autres. Il apporte quoi ? Eh bien justement, il apporte de sans cesse marteler, c'est toujours la même chose. Et c'est toujours la même chose parce que nous sommes particulièrement sourds et nous n'entendons pas. Font de dire, mais les pauvres sont chez eux dans l'Église. C'est leur maison. Ils sont là en priorité. Parce que si l'Église ne prend pas en priorité les plus pauvres, alors elle n'est pas pour tout le monde. Elle va en laisser de côté. Et le pape François ne cesse de marteler ça. Alors, dès le début, j'en disais, mais le pape, c'est notre pape. Et ah ben, on aimerait le voir, il faut qu'on lui écrive, on aimerait aller le rencontrer, on a des choses à lui dire, et peut-être que lui, il a des choses à nous dire. Et savez-vous, les gens que nous amenons à Rome, ceux qui voudraient que le pape leur dise, si par bonheur nous le rencontrons, c'est qu'il leur donne une mission. Que les pauvres du monde ont une mission. Les pauvres de France ont une mission. Et une mission dans l'Église. Et alors, quelle mission? Eh bien, attendons que le pape nous la donne.
Mais donc le pape va vous recevoir...
Alors, nous espérons que le pape nous reçoive. Voilà. Je ne peux pas vous dire
qu'un appel
nous
commence au pape François, si vous nous entendez.
Si le pape nous entend, qu'il nous reçoive. Mais voilà, est-ce qu'on va lui... Au fond, on va lui dire quoi? Nous avons pendant une année préparé, par des réunions autour de l'Évangile, autour de la miséricorde, préparé pendant une session d'un week-end, un message à apporter au pape. Et je ne vais évidemment pas vous donner le message, parce que c'est un message au pape, donc il l'aura en primeur. Mais ce que nous demandons au pape, c'est que, au fond, nous ne lui demandons rien. Nous voulons l'encourager. Quand je dis nous, c'est les gens avec qui nous sommes, tous ensemble, et les trois associations, la Bonne Nouvelle, le Sapel, la Pierre d'Angle, nous voulons encourager le pape lorsqu'il parle de la justice. Qu'il n'y a pas de paix sans justice, qu'il n'y a pas de charité sans justice, qu'il n'y a pas d'adoration eucharistique sans justice, que la justice, c'est la pierre d'angle de tout. Et évidemment, ça va avec le reste, hein. C'est, vous savez, comme nous disions du temps de Diaconia, dans quelle dynamique de l'Église dans laquelle nous avons amplement participé, hein, l'Église est sur trois pieds, la parole de Dieu, les sacrements, le rassemblement, et puis la diaconie, le service. Et si on oublie le service, eh bien l'Église se casse la figure, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas, on fait semblant qu'elle existe, mais ça c'est plus l'Église. Et bien ce qu'on veut dire au pape, c'est on vous remercie d'en parler, on vous remercie aussi de dire que les très pauvres du monde, les misérables du monde, ont une parole à dire à l'Église, et que l'Église a à apprendre de cela. Et enfin, on veut lui dire que nous comptons sur lui pour qu'il continue à aller là où personne ne va, et que nous le remercions de ne pas avoir peur des pauvres. Parce que vous voyez, c'est pas si évident, et lorsque le pape va au Mexique, dans la ville la plus violente du pays, on dit oui, mais il y a des gardes du corps. Enfin, les précédents n'y allaient pas, et les présidents des républiques ou des États n'y vont pas non plus. Il y a toujours un certain courage, et ce courage, les gens le sentent. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas peur. Il n'a pas peur, pourquoi? Parce qu'il les a rencontrés quand il était archevêque, quand il était lui-même prêtre avant, à Buenos Aires, il les a rencontrés et il sait qu'un homme est un homme, une femme est une femme, et que aussi violent et furieux soit-il, le terme de furieux appartient au père Joseph Wyszynski, aussi furieux soit-il à cause de ses conditions de vie, ça reste un homme, c'est-à-dire un fils de Dieu, quelqu'un est appelé au royaume.
D'ailleurs, le père Joseph Wyszynski, qui a lancé, ou du moins qui a appuyé sur cette spiritualité pauvre, spiritualité avec les pauvres, vous qui l'avez côtoyé, je crois, un petit peu, voire même peut-être beaucoup, vous avez dû voir et sentir, c'est ça qui vous a plu peut-être chez le pape François, qu'il y a une analogie à faire entre les deux spiritualités. Parce qu'elles sont proches. Oui.
Absolument, très proches. Très très proches. Il y a des accents du pape François que je retrouve comme accent du père Joseph. Le père Joseph, finalement, quel est son message essentiel? C'est être proche des pauvres, proche du plus pauvre, c'est-à-dire de l'absent, celui que je connais pas encore, celui que me cachent les pauvres que je connais. Être sans cesse vers ceux qui sont invisibles, les sans-voix, comme on dit aujourd'hui de manière assez courante, mais être proche de ceux que je ne vois pas, et m'appuyer sur eux. Puis la deuxième chose essentielle, et que le pape François répète sans cesse, c'est apprendre d'eux, parce qu'il y a des choses que je ne sais pas. J'ai fait des études, j'ai fait de très longues études, il y a des choses que je ne sais pas. Et c'est quoi que je ne sais pas? Je ne sais pas le visage de Dieu, qu'a Dieu pour les très pauvres. Je ne sais pas ce qu'est l'humanité à partir du monde des très pauvres, parce que j'ai pas cette référence-là.
Et puis même vous, et puis là on ressent bien les enseignements aussi du père Joseph Wyszynski, du pape François, vous disiez avec les plus pauvres, j'ai eu tout à apprendre ou à désapprendre, car ils sont porteurs d'un savoir que ni l'école ni l'université ne m'avaient transmis.
Absolument. Je peux dire que j'ai tout appris avec les plus pauvres, sans jamais me mettre à une table et les écouter et en prenant des notes, mais simplement en vivant avec eux pendant des années et en essayant de comprendre ce qu'ils disaient. Mais Madame Gaillande, je ne comprends pas ce que vous me dites. C'est votre vie, qu'est-ce qu'elle a à me dire, Monsieur Cipriot ? Et au fond, parce que je suis incapable de comprendre, parce que c'est pas ma référence, et peu à peu, alors j'ai été obligé de me dire, mais je ne sais pas tout.
Alors Jean-Claude Caillot, on va pouvoir vous suivre aussi durant ces 4 jours de pèlerinage, car je crois qu'une caméra de KTO viendra suivre pendant ces 4 jours. Elle vous suit déjà pour faire un long documentaire. Là aussi, on va pouvoir vous retrouver bientôt.
Ben, voilà, il y a un documentaire qui sera signé par Claire Janteur, et qui réalisatrice, et qui sera un documentaire d'une cinquantaine de minutes, et autour de ce pèlerinage vécu comme une expérience d'église. Bon, nous avons rencontré celui qui peut présider à la charité des églises.
Merci beaucoup Jean-Claude Caillot pour votre témoignage poignant, et puis on vous retrouve très bientôt sur KTO avec toutes vos équipes.
Merci beaucoup.